1. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dose de France. Je suis Johan Collot, fondateur de la page Instagram Dose de France et du site internet demichelot.com dédié aux apéritifs et spiritueux français. Pour trouver des boissons de qualité, artisanales et traditionnelles, rendez-vous sur demichelot.com. Rappel nécessaire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Bonjour à tous les amis et bienvenue pour ce 8e épisode du podcast. Déjà, j'ai réussi à tenir 2 mois sans faire d'interruption et ça, c'est un véritable miracle. Est-ce qu'on peut dire que le podcast est lancé? Je crois qu'on peut dire que le podcast est lancé puisque toutes les semaines, je fais environ. Bah après, chaque semaine, il y a des nouvelles personnes qui découvrent le podcast. Donc, disons que le premier a dépassé les 1200 ou 1300 écoutes, je crois. Et après, là, chaque semaine, ça fait 400, 500. Puis ça continue de grossir au fur et à mesure. Cette semaine, je n'ai pas oublié mon petit verre d'eau. Donc, je buvais une gorgée d'eau. Alors, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine. Il faut savoir que là, cet après-midi, je pars. Donc là, je suis à Paris, enfin à côté de Paris, chez moi. Et cet après-midi, je pars dans le Cantal pour faire 3 jours de randonnée, pour faire une boucle du GR400, qui est la boucle du Falgou, je crois. Oui, c'est ça. De toute façon, je vous en parlerai la semaine prochaine. J'ai très très hâte. Ça fait longtemps que je voulais le faire. Je pars avec deux potes. On va bien rigoler. Et donc, je voulais pas partir sans avoir fait le podcast, donc je le fais maintenant. Et comme ça, vous l'aurez. Et il n'y a pas d'interruption, la régularité. Je voulais mettre un point d'orgue de faire de la régularité sur ce podcast pour que ceux qui commencent à écouter et qui notent le rendez-vous, ok, jeudi, c'est jour du podcast Dose de France, et ben ils puissent l'avoir toutes les semaines. Parce que moi, j'écoute des podcasts et j'avoue que ça fait chier quand. Bah quand tu vas le jour de la sortie, parce que tu as pris l'habitude que ça soit sorti tel jour ou tel jour, tu y vas, il n'y en a pas, bah c'est un peu frustrant. Donc voilà, je pense à ceux qui apprécient m'écouter et qui le veulent chaque semaine. Et je vais tâcher de le sortir chaque semaine comme prévu. Parce que la régularité, c'est plaisant. Voilà. Alors, cette semaine, je voulais vous parler d'un sujet où j'ai de plus en plus de demandes dans mes messages privés, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de faire un podcast qui reste, et comme ça je renverrai les gens dessus quand ils me posent des questions. C'est le principe de monter sa marque d'alcool. Ouais, Johan, comment on fait pour monter sa marque d'alcool? Ouais, Johan, voilà, je veux monter ça, mais je connais pas trop telle chose, telle chose, telle chose. Donc je vais vous décrire directement l'enfer! L'enfer, l'abomination! Je vais vous démotiver à monter une marque d'alcool. Non, je vais vous expliquer comment ça se passe. Et ceux qui ont encore le courage et l'abnégation, ou on peut le dire la folie, parce qu'il faut être fou en fait pour faire ça. Si tu sais d'avance, en fait, je me suis dit, est-ce que je leur explique? Et dans ce cas-là, 99% des gens ne le feront pas, ou voudront plus le faire. Ou est-ce que je leur explique pas? Et du coup, ils découvriront trop tard, ils font comme tout le monde, bah, maintenant qu'ils sont dans la merde, bah, ils avancent. Parce que moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Dès que j'ai un truc, je sais un petit peu d'avance que ça risque d'être chiant. Bah, ce que je fais, c'est que je me renseigne pas dessus. Et comme ça, je découvrirai les galères. Mais sauf que comme je suis déjà dedans, bon, bah, tu dis, bon, bah, je suis déjà dedans, je découvre. Exactement ce que je suis en train de faire avec ma boîte actuelle, en fait. Faut savoir que j'avais déjà lancé un truc sur l'alcool en sortie de Covid. J'ai découvert les montagnes de problèmes. Et donc quand j'ai relancé ma boîte, j'ai appelé un gars qui avait déjà sa marque d'alcool et je lui ai proposé de s'associer avec moi parce que je connaissais en gros les problèmes auxquels j'allais devoir faire face. Lui, il les connaissait encore mieux que moi et je me suis dit, bon bah je m'associe avec lui et comme ça tous ces problèmes sont relégués sur le côté. Voilà. Ou du moins je les comprendrai beaucoup plus vite et ça m'évitera de refaire des conneries. Voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui, mais avant de vous en parler, je voulais aussi brièvement vous refaire un petit rappel pour vous dire que pour la fête des pères sortira donc, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, 4 éditions limitées Maquisard, une édition limitée Dose de France. Vous pouvez retourner au podcast d'avant, j'en parle pendant 15 minutes pour avoir beaucoup plus de précision, mais en gros, dans les 4 Maquisards, il y aura un Calvados qui a connu un vieillissement en ex-fût de whisky écossais. Il y a Calvados Drouin. Il y a un cognac de la maison Ferrand qui a connu un vieillissement en ex-fût de vin rouge Pauillac, vin rouge bordelais. Il y a un Armagnac 100% Baco bio de 2023 avec un vieillissement très particulier. Pareil, je vous renvoie au podcast numéro 7, podcast de la semaine dernière, pour avoir tous les détails de ce particularisme. Et il y a notre premier whisky, un whisky de 8 ans d'âge avec la distillerie Domaine des Hautes-Glaces, single malt, donc 100% orge issu d'une même distillerie. Avec un vieillissement en ex-fût de cognac. Voilà. Et pour l'édition Dose de France, ça sera un gin Citadelle qui a vieilli 3 ans en fût de merisier. Donc, il y a un goût très noisette verte, etc. Pareil, pour tous les détails, les particularismes, bon, je vous renvoie à l'épisode précédent. Pour la date, je ne peux pas vous communiquer encore une date de sortie précise puisque là, nous sommes train de finaliser la mise en page des étiquettes avec notre graphiste. Une fois qu'elle a terminé, on envoie tout à l'imprimeur. L'imprimeur m'envoie les étiquettes. Nous envoyons les bouteilles, toutes les matières sèches dans les distilleries pour embouteiller dans les quatre en même temps. J'envoie les étiquettes pour qu'il les colle. Ensuite, il me renvoie tous les bouteilles dans mon entrepôt. Et là seulement là, on pourra les mettre en ligne. Et encore, il faut les photos, les machins. Plein de petits détails comme ça. On dirait pas, hein. On se dit, ah ouais, tiens, c'est chiant, pourquoi c'est en retard? C'est plein de petits détails de merde comme ça, là, qui cassent les couilles. Ouais, le livreur, il s'est trompé d'adresse, du coup, 3 jours de plus. Ça arrive tout le temps. Tout le temps, la dernière fois, je devais envoyer des bouteilles vides à la distillerie de Calvados, là, quand on a fait le maquisard Groulx, 33 ans. D'ailleurs, il en reste quelques-unes sur notre site. Un restaurateur, j'ai cru qu'il en voulait 10, mais en fait, il en voulait moins. Du coup, je suis récupéré. Celles qui ne voulaient pas et je les ai remis en ligne. Donc, si vous n'avez pas eu accès au Calvados 33 ans que j'ai fait avec la distillerie Groulx, bah, il y en a re en ligne. Saisissez votre chance. Ah, d'ailleurs, j'en ai peut-être pas parlé la semaine dernière, mais sur les 4 maquisards et le Dose de France qui sortiront pour la fête des Pères, les prix, ce sera compris entre 50 et 105 euros. Voilà, j'essaie de canaliser le plus possible. Pour que il y en a deux qui il y en a une qui sera à 50, une à 55, voilà, pour ceux qui ont beaucoup moins de moyens et qui veulent quand même goûter de très jolis trucs, et ben vous pourriez y aller aussi. Ouais, donc je disais, j'avais livré les bouteilles à la distillerie de Calva pour qu'ils mettent en bouteille chez Groulx. Le livreur, il me les a livrées dans une autre distillerie, pas le même nom, je sais même pas pourquoi il les a livrées là-bas, on ne s'est même pas trompé dans l'adresse. 45 minutes, il les a livrées à 45 minutes. Du point de chute originel. Parce que le mec, en fait, il s'est trompé de palette et le salarié de l'autre distillerie a dit ouais, ok, je l'accepte. Putain, Siri, arrête de te lancer. Pardonnez-moi, Siri. Siri se lance quand je parle. À chaque fois que je dis le mot distillerie, il pense que je dis machin pour qu'il se déclenche. Mais non, je ne veux pas te parler, sale robot. Reste chez toi. Reste chez toi. Arrête de me parler. Je ne t'aime pas, je ne t'aime pas. Bref. Donc voilà, toujours plein de petits problèmes comme ça, ce qui est assez chiant, mais après, ce n'est pas qu'au secteur de l'alcool. Hein. De toute façon, dès qu'il y a un truc où il y a de la logistique, forcément, il y a des problèmes, puisque beaucoup d'acteurs rentrent en compte, il y a plein de petites choses à régler par-ci, par-là tout le temps. Donc c'est très chiant. Mais bref. Donc je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière pour avoir tous les détails de ce qu'on va sortir. Ah oui, voilà, je vous parlais des dates. Donc j'espère que ça sera, au mieux, ça sortira le 15 mai. Au pire, ça sortira le 30 mai. Voilà. Mais du coup, il n'y a pas de prévente cette fois. Donc si vous l'achetez, vous le recevez en 48-72 heures. Donc on peut se permettre de le sortir assez proche de la fête des Pères. Mais le mieux, ce serait quand même de le sortir le 15 mai, qui est un mois avant la fête des Pères. Comme ça, vous avez le temps de l'acheter tranquille. Le 15 mai, je me rends compte que c'est dans 3 semaines. Ouais, peut-être 3 semaines, on aura le temps, mais après, il y a les ponts en mai et tout, donc peut-être plein de salariés qui feront les ponts et tout. Il faut abolir les jours fériés. Le patronat, Johan au MEDEF. Johan version salarié, putain, yes, les ponts et tout. Johan qui monte une entreprise, il faut abolir. Il faut abolir le SMIC, il faut abolir les jours fériés, c'est infernal. Voilà. Pourquoi voulez-vous reposer? À quoi ça sert le dimanche? On se fait chier le dimanche. Tu vas à la messe le dimanche matin, puis tu vas bosser. Merde. Non, non, non. C'est pas pratique, mais faut faire avec. Voilà. C'est pas pratique. On va dire ça comme ça. Mais on va pas les supprimer, bien sûr que non. Enfin, le 1er mai, fête du travail, on pourrait supprimer quand même. Bref, je ne vais pas me faire plus d'ennemis que j'en ai déjà. Et donc voilà, oui, entre le 15 et le 30 mai, voilà, j'espère vers là. Et aussi, bien sûr, je vous reparle de l'événement qu'on fera le 6 juin, donc une semaine avant la fête des Pères, sur une péniche à Issy-les-Moulineaux, sur laquelle il y aura des masterclass, donc des dégustations avec explications sur le gin, sur le cognac, sur le rhum. Et donc, c'est cette péniche appartient au groupe Ferrand, qui détient du coup le cognac Ferrand, le gin Citadelle et le rhum Plantation, qui maintenant s'appelle Plantrait. Il y a des fûts dans la soute, donc vous pourrez visiter, voir ces petits fûts, etc. Avoir les explications, faire des dégustations, boire des cocktails. Et je pense qu'on n'a pas encore lancé ça, parce que je voulais lancer la billetterie un mois avant. Mais je pense que ce qu'on fera, c'est qu'on fera un billet payant pour être sûr que les personnes qui ont dit qu'ils viendront, viendront. Parce que moi, je m'engage avec les gens de la péniche. Donc, c'est quand même agréable quand on leur dit, ouais, normalement, il y a 50 personnes, il y a 50 personnes qui viennent. Ça m'évite de passer pour un con, disons. Et puis, la prestation est vachement cool. Donc, si on fait un petit billet, je sais pas, à 10-15 balles, c'est intéressant. Et le truc qui serait cool, c'est de dire, bah voilà, c'est 10-15 balles par personne, mais si tu viens avec ton père, comme c'est pour la fête des pères, bah c'est 10-15 balles, mais pour deux. Voilà, mais si t'es avec ton père. Comme ça, je sais pas, on ouvre 40-50 places, et il y aura entre 50 et 100 personnes, selon qui vient avec son père ou pas. Voilà. Et du coup, bien sûr, il y aura les maquisards Cognac Ferrand et le Dose de France Gin Citadelle à déguster sur la péniche. Et s'il me reste des bouteilles, peut-être à acheter même. Après, comme il y aura que 60 bouteilles de chaque, à mon avis, j'en aurai plus, j'aurai que les miennes, donc celles que je garde pour les dégustes. Voilà. Un conseil, même si vous achetez un billet pour venir sur la péniche, je vous conseille quand même d'acheter la bouteille en ligne avant. Bon, pour les annonces, c'est terminé. Je voulais faire court. J'ai fait 12 minutes, alors que la semaine dernière, j'ai fait 15. Donc j'aurais pu limite vous donner les détails, mais bref. Alors, pour les joyeux lurons d'entre vous qui ont eu l'idée saugrenue et suicidaire, disons-le, mettons les termes très violents tout de suite, suicidaire, de monter une marque d'alcool, bienvenue en enfer. Bienvenue dans le monde terrible de l'absence de marge, de la surréglementation, des douanes, des taxes. Ouh, les taxes. Ouh, mon Dieu. Oh là là. Si vous trouvez que en tant que salarié, vous êtes beaucoup taxé, vous n'avez rien vu. Rien vu du tout. Vous allez être estomaqué de tout ce qu'on peut vous prendre. Je pense que même si vous vous y préparez, avant de créer une boîte dans l'alcool, faites d'abord des rendez-vous de sophrologie et de psychologie. Allez voir un psy. En fait, allez voir un psy avant le traumatisme pour vous préparer au choc post-traumatique. Voilà, de la fiscalité française qui est terrifiante. Terrifiante. Bref. J'ai fait un petit plan sur une feuille que j'ai arrachée pour essayer de ne pas oublier et surtout de faire dans l'ordre. Et parce que c'est quand même intéressant si je vous dis les choses dans l'ordre. Donc, prenons l'exemple de Benjamin, qui est un personnage fictif. Benjamin vient me voir et me dit « Johan, j'ai eu l'idée du siècle. Je vais monter une marque d'alcool. Toi qui as déjà une marque d'alcool, il y en a même plusieurs d'ailleurs, parce que j'en ai deux, de Michelot et Maquisard, tout disponible sur demichelot.com, en plus des distilleries que je distribue, si vous voulez acheter du gin, de la vodka, et bientôt... Ah oui, putain, j'ai oublié dans les annonces. On va rentrer une distillerie de cognac, donc bientôt sur demichelot.com. Là, la palette est dans le camion, je crois, elle arrive bientôt. On aura du cognac, deux cognacs différents, du Pinot des Charentes, j'en profiterai pour vous expliquer ce que c'est une fois que ça sera dispo, et du Pinot des Charentes, pas officiel, parce qu'ils ont perdu l'appellation, tout simplement parce qu'ils ont fait infuser des framboises dedans. Voilà, donc très très cool. Très cool. Et je vais aussi rentrer des eaux de vie d'un bouilleur de cru, un distillateur ambulant. Et il y aura de l'eau de vie du coup de poire William, de l'eau de vie de Quetch et de l'eau de vie de Mirabelle. Voilà, très heureux, ça va bientôt arriver, bientôt disponible sur demichelot.com, en plus de mes marques. Voilà, là c'est fini les annonces. Donc tu te dis, Benjamin se dit, je vais monter une petite marque d'alcool. Je bois un petit peu d'eau. Ok, donc la première chose à voir, c'est quel alcool veux-tu faire? Alors quand moi je dis alcool, je parle des alcools distillés ou des apéritifs. Hein. Je parle pas du vin, je parle pas de la bière, parce que je vends pas de vin, je vends pas de bière, donc je sais comment ça marche, mais je sais pas aussi bien comment ça marche que les spiritueux. Donc je parle uniquement si vous voulez monter une marque de spiritueux, genre vous voulez monter une marque de gin, de whisky, de rhum, une marque de liqueur comme moi, peu importe. Mais des trucs qui sont ni du vin ni de la bière. Première chose, il faut bien identifier quel type d'alcool tu veux faire. Alors, là, tu es face à un dilemme. Il faut savoir dans quelle team tu vas te ranger. Et parce qu'il y a vraiment deux teams très distinctes. Team numéro 1, c'est la team de je fais les alcools qui marchent, parce que le marché a montré qu'il voulait ces alcools-là et qu'il les achète. Mais par contre, comme ça marche, il y a énormément de concurrence. Donc je suis sûr que je peux faire du volume. Par contre, la condition pour faire du volume, c'est que j'arrive à sortir du lot au milieu d'une concurrence stratosphérique. Parce que c'est quand même un des problèmes du milieu de l'alcool, c'est que c'est un marché qui a énormément de barrières à l'entrée, qui est très compliqué à appréhender, beaucoup de normes, beaucoup de taxes, beaucoup de logistique, donc les trois pires trucs au monde en fait. Et en plus, il y a beaucoup de monde, donc énormément de concurrence. Je prends l'exemple des trois alcools assez phares qu'on voit souvent. Donc la France, il faut savoir qu'on est les plus grands consommateurs au monde de whisky. Par habitant, hein, bien sûr, pas en volume. Par habitant, on est le pays numéro un dans la consommation de whisky. On boit aussi énormément de rhum. Et maintenant, on voit aussi beaucoup de gin. Alors, je ne connais pas l'état de la consommation de gin, mais en gros, les deux leaders, c'est whisky devant, rhum derrière, et il y a beaucoup de gin. Alors le gin, il y en a beaucoup parce que je dirais pas que c'est facile à faire, ce serait un peu péjoratif de dire ça, mais disons que c'est rapide. Gin, t'as trouvé ta recette en une journée, tu peux envoyer 10 000 bouteilles quoi, grosso modo. Alors que le whisky, bah pour avoir un truc qui s'appelle whisky, t'es obligé d'attendre 3 ans de vieillissement. Donc c'est pas pareil. Après le rhum, si tu fais du rhum blanc, ça va vite. Si tu fais du rhum vieux, c'est un peu plus long, mais disons que ça peut aller vite aussi quoi. Mais ça reste quand même beaucoup plus chiant à gérer que faire du gin. Donc déjà, il faut que tu identifies ça. Est-ce que tu veux faire un alcool qui se vend très bien, mais dans lequel il y aura une concurrence stratosphérique? Je crois que whisky et rhum, à eux deux, c'est 40% de la vente de spiritueux en France. Hein. Sachant qu'en France, on est des énormes consommateurs d'anisé, notamment via Ricard. Donc c'est vous dire les volumes que ça envoie. Donc whisky, rhum, gin. Par contre, quand tu vas débarquer chez un caviste ou chez un restaurateur et que tu vas dire « Ouais, salut, je fais du whisky », ils vont faire « Ah ouais, alors attends, t'es le 37e commercial à faire du gin aujourd'hui, voilà. T'es plus cher. Et en plus, moi, pour des raisons pratiques, parce que vous avez découvert plein de trucs comme ça en fait, pour des raisons pratiques, j'achète mon gin à Café Richard. Parce qu'en fait, à Café Richard, je lui achète les tasses à café, les cafés. Je lui prends des sous-tasses, je lui prends des serviettes, je lui prends des ketchup, je lui prends le vin et du coup je rajoute les spiritueux, comme ça je paye pas la livraison et en plus j'achète du Gibson ou du Beefeater qui coûte que dalle. Donc pourquoi j'achèterais chez toi, petit lanceur de marque qui fait du gin, alors que il y a moult, moult quantités de gin moins cher et plus pratique? Ah là, mon pote, t'as intérêt de, un, que ton jean y soit bon et d'avoir des arguments commerciaux. Moi, je peux te le dire. T'as intérêt d'avoir du réseau, quoi. Donc, c'est ça le problème. Et même combat pour le whisky. Pourquoi il achèterait chez toi alors que ses clients s'enfilent des quantités astronomiques de Jameson ou de Jack Daniel? Pourquoi il se ferait chier? Tu peux le comprendre aussi. Pourquoi il se ferait chier à passer par toi? Pourquoi il te prendrait ton rhum qui est 2 fois plus cher alors que dans le Mojito ou je sais pas quoi. Je sais pas quel cocktail, il peut envoyer du Don Papa ou du Havana Club qu'il aura beaucoup moins cher, que ses clients vont lui demander puisqu'ils le connaissent. Et en plus, il y a des raisons pratiques en termes de logistique, puisqu'il peut acheter ça en même temps qu'il achète du café, de la bière et du vin. Et du coup, ça lui coûte zéro en livraison. Pourquoi il achèterait juste du rhum chez toi qui coûtera plus cher? Il faudra qu'il achète 30 bouteilles d'un coup et en plus, c'est pas sûr qu'il y ait la livraison gratos. Et en plus, il est obligé de d'appeler l'autre pour son café et de t'appeler toi pour le rhum. Ça lui fait deux coups de fil, deux factures différentes. Putain, ça, mets-toi à sa place, ça le fait chier. Donc voilà, faut que tu travailles tes arguments commerciaux. Et que tu t'accroches, hein, parce que c'est pas parce que c'est bon que ça va se vendre. Donc ça, c'est la première team. Et la deuxième team, c'est ce que j'avais choisi moi au début avec mes liqueurs de Michelou. C'est la team. On va faire des trucs que le marché visiblement aime moyen. Moyennement, ça marche pas du feu de Dieu. Mais comme c'est original, et bah si on veut en trouver, tu peux vite te démarquer, vite faire ton trou et on peut passer par toi pour commander ce type d'alcool. Donc là, bon, disons que ça se vend pas très bien, donc même si c'est pas très original, mais le cognac, l'armagnac, le calvados, bon, tu as quelques grosses maisons qui lead un peu le truc, enfin moyenne maison, disons, qui lead un peu le truc, et du coup ce sera difficile de te battre contre eux, mais il y a quand même moyen de faire ton trou. Et après, bah, il y a les liqueurs, les apéritifs un peu bizarres, ou même si tu inventes ton alcool à toi. Voilà, donc là ça sera un peu plus facile peut-être de commencer à trouver quelques clients et de faire tes premières ventes. Par contre, pour envoyer du volume derrière, ça va être compliqué. Donc, c'est la deuxième team, la team originale, mais ça se vend moins bien, ou la team mainstream, ça peut du coup très bien se vendre, mais énormément de concurrence. Donc, en gros, soit tu prends le risque d'aller dans un marché de niche et avec donc pas beaucoup de volume, mais pas beaucoup de concurrence, soit tu prends le risque d'aller dans un marché mainstream. Mais possibilité de faire beaucoup de volume, par contre beaucoup de concurrence. Quoi qu'il arrive, c'est deux risques différents. Moi, j'ai pas de meilleure stratégie à vous confier. Faites ce que vous voulez. Moi, je m'en tape. Je considère que tu peux bien gagner dans les deux, mais il faut être bon, quoi. Donc, déjà, première difficulté dans le fait de monter sa marque d'alcool. Crois pas que tu vas monter un truc et que demain matin, tu auras 8 milliards de commandes. Il va falloir faire du terrain ou avoir. Après, si tu as un réseau de dingue, ça peut marcher. Hein. Ensuite, si tu n'y connais absolument rien, comment tu vas fabriquer cet alcool? Prenons le menu Classic Burger, classico-classique. Benjamin veut faire du gin, comme tout le monde. Tout le monde. Je vous conseille pas de faire du gin. Alors, il fait du gin et dans cette marque de gin. Il doit d'abord trouver comment le fabriquer. Et pour le fabriquer, il a, selon moi, trois solutions. La solution numéro un, c'est il monte sa propre distillerie, donc il se met lui-même à distiller. Alors là, il faut monter une entreprise, avoir un alambic. Bah, faut savoir distiller. Il me semble qu'il fait aussi des autorisations. Il te faut un local, peut-être même des employés. Enfin, c'est énormément de charges fixes et de compétences. La deuxième solution, donc pour moi, c'est très risqué, très compliqué, parce que tu mets énormément d'argent en jeu. Et en plus, il faut que tu saches ce que tu fais. La deuxième solution, c'est personnellement, moi, ce que j'ai fait avec mes liqueurs. C'est-à-dire, tu vas voir une distillerie, qui exécutera pour toi la production. Donc ce n'est pas toi qui fabrique, mais par contre, il exécute des produits qui seront uniquement les tiens. C'est-à-dire que personne d'autre pourra avoir le même produit que le tien. Donc dans ce cas-là, c'est tes recettes. Par contre, c'est une distillerie qui les fabrique pour toi. Ah putain, ta gueule, Siri. Là, l'avantage, c'est que du coup, tu n'as pas à investir dans toute l'infrastructure et tu n'as pas besoin d'avoir énormément de compétences, à part celle d'avoir un bon palais pour quand même fabriquer un produit qui est bon, enfin le valider avant de le mettre en production massive, parce que si tu as validé un truc de merde et que tu en fais 1000 bouteilles, tu auras l'air con. Et pour moi, cette solution, elle est quand même assez pratique. Et il faut savoir que dans le monde des alcools forts, alors je ne sais pas pour le vin et la bière, mais dans le monde des alcools forts, c'est une solution qui est extrêmement répandue. C'est-à-dire que la plupart des gens qui prennent le risque de monter une distillerie, d'investir, fabrique énormément d'alcool pour d'autres marques. Et moi, j'ai déjà vu, je ne donnerai pas de nom parce que c'est des trucs que j'ai vus en voyant des étiquettes par-ci par-là quand je me baladais dans une distillerie, donc je n'étais pas censé le voir. Mais je sais, par exemple, j'ai en tête une distillerie qui fabrique des dizaines et des dizaines de recettes de gin pour des marques, même des marques qui sont très connues et que vous connaissez tous. Ces marques n'ont pas de distillerie, n'ont pas de lieu de production à eux. Et c'est une distillerie qui elle-même fait des produits très connus, qui fabrique ces produits-là pour d'autres. J'ai vu une distillerie qui fabriquait une marque d'alcool, pareil, la mondialement connue. Et c'est elle qui fabriquait, qui elle-même est mondialement connue. Elle fabrique cet alcool-là. Vraiment, je donne le moins de détails possible, parce que c'est des trucs très, très secrets, quoi. Et donc, voilà, c'est quelque chose de très répandu. Parce que pour distiller, avoir une distillerie, c'est énormément d'infrastructures, énormément du coup d'investissements, beaucoup beaucoup de compétences, beaucoup de réglementations, de normes, de contrôles, de relations avec les douanes, etc. C'est un travail qui est hors norme. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique quand on n'est pas forcément distillateur de métier ou qu'on n'a pas hérité sur plusieurs générations de lieux de production, de se dire, bon, bah voilà, on va faire fabriquer par quelqu'un d'autre. En plus, je ne sais pas si tu veux faire du gin, bah c'est quand même cool d'aller voir une distillerie où tu sais qu'elle fabrique très très bien du gin. Et donc, directement, tu ne vas pas perdre des milliers d'euros en recherche et développement puisqu'elle saura te guider, répondre à tes questions et le travail sera propre. Ensuite, elle va faire selon ce que toi tu veux, mais au moins tu sais que le travail sera propre et tout de suite toutes les réglementations, les papiers pour les douanes, les taxes, tout, tu seras guidé puisque tout simplement ils vont te demander tel papier, tel truc, tel lieu de livraison, etc. C'est une solution hybride qui, dans le milieu de l'alcool, est très répandue et fonctionne très bien. C'est pas comme dans le vin où tu as le cliché de, à part pour les négociants, mais en général, t'es vigneron, donc t'as tes vignes, tu fais toi-même tes vendanges, ton travail de... merde, comment ça s'appelle ? De vinification, et ensuite ton bouteille, tes bouteilles toi-même. Donc en gros, tu fais tout de A à Z, quoi. Sinon, t'as les négociants qui achètent soit le raisin, soit les vins. Mais bref, non, dans le milieu de l'alcool fort, c'est pas pareil. Tu as souvent, même, je pense que c'est la majorité des marques qui sont distillées par d'autres distilleries. Il y a même en Écosse des distilleries qui ne sont pas connues du grand public et qui n'ont elles-mêmes pas de marque parce qu'elles n'ont pas envie de se faire chier avec du marketing, avec des embouteilleurs, avec je ne sais pas quoi. Et donc, elles ne font que produire du whisky pour d'autres qui iront ensuite dans des assemblages. Voilà. Donc, petit point là-dessus. Il ne faut pas complexer avec ça, il ne faut pas forcément savoir tout fabriquer soi-même et tout, parce que c'est très réglementé, très technique, c'est un métier qui est hyper compliqué. Et puis ça peut aller très vite, du coup, si tu veux fabriquer ton gin, tu appelles une distillerie qui fabrique déjà du gin, tu dis « Salut, j'aimerais fabriquer mon gin, est-ce que vous faites du... » On appelle ça du « à façon ». Ils vont te dire oui ou non, et s'ils te disent oui, bah, tu prends rendez-vous, et dans un mois, le temps de fabriquer, dire tout ce que tu veux, et que lui s'assure que tu es quelqu'un de sérieux, bah, tu as ton jean en fait, donc ça va très vite. Et après, la troisième solution que personnellement, j'aime pas, mais qui existe, si jamais elle peut vous intéresser, c'est les marques blanches, l'achat de vrac. Donc, il y a des distilleries qui peuvent être d'accord, par exemple, qui produisent des quantités astronomiques de whisky. Ça se fait pas mal dans le whisky ou le rhum, tout simplement parce que c'est inhérent à l'appellation. Dans le whisky, pour avoir du whisky, il faut attendre un minimum de vieillissement de 3 ans. Et là, ça s'appellera whisky. Mais en général, on peut faire on fait des vieillissements qui sont beaucoup plus longs, par exemple 10, 15, 20 ans. Donc, c'est des business qui se réfléchissent sur le temps long. Prenez une distillerie où son best-seller, en Écosse, par exemple, son best-seller, ce sont 12 ans. Bah, ça veut dire qu'elle est obligée de prévoir ses quantités 12 ans à l'avance. Donc elle ne peut pas, au moment où le marché fonctionne un peu moins bien, réduire sa production. C'est quand même très compliqué, parce que ça veut dire que si dans 12 ans le marché fonctionne mieux, bah, elle va payer le fait d'avoir réduit sa production 12 ans avant. Donc elle est en permanence obligée de débiter des quantités astronomiques de whisky. Donc quand ça ne se vend pas, bah, ils peuvent faire du vrac de différents âges, et il y en a certaines qui acceptent... t'achètes son vrac de 5 ans, par exemple, et bah, tu le mets directement dans ta bouteille à toi, tu mets ta marque et tu mets ton whisky à toi. T'as rien fait, t'as juste acheté une cuve remplie de whisky de 5 ans que t'aimais bien, tu l'as transvasé dans tes bouteilles, et c'est ce qu'on appelle une marque blanche, quoi. T'as pris un liquide sur lequel t'as pas travaillé, qui t'appartient même pas, tu fais un marketing autour, etc. Ou juste, tu sais, ça peut être tout bête, hein, pour un mariage, des événements, ou des trucs de plus grosse ampleur, des festivals, ou des trucs comme ça. C'est une solution qui est très pratique, parce que tu skips toute la partie invention de recettes ou assemblage, création d'un assemblage. Juste achète un truc qui est bon, tu le mets dans ta bouteille, et tu peux directement soit l'utiliser pour tes événements privés, soit pour, il faut quand même certains volumes, soit pour ensuite faire du la commercialisation. Alors, c'est beaucoup plus répandu que vous l'imaginez. Moi, j'aime pas trop parce que je trouve que ce qui est intéressant, c'est quand même d'apporter sa patte et son identité à un produit. Mais en tout cas, sachez que ça se fait. Donc voilà, vous avez les trois manières de fabriquer. Soit vous fabriquez vous-même, mais c'est très gourmand en connaissance, déjà en connaissance de fabrication, de normes, d'hygiène et en infrastructure, donc en moyens, en prise de risque. La deuxième solution, qui est une solution hybride, c'est-à-dire que vous avez des recettes ou des assemblages qui sont propres à vous et qu'on ne retrouvera que sous votre marque, mais c'est une distillerie tiers qui vous les produit. Une solution extrêmement courante. Et la troisième solution, c'est vous acheter des produits qui sont déjà tout faits à des distilleries, qui vous fournissent en vrac, donc en bidon, en citerne, peu importe la quantité que vous achetez, vous transvasez juste dans vos bouteilles avec votre marque et votre marketing, et vous avez votre marque blanche. Voilà. Encore une fois, je ne sais pas si ça se fait dans le monde du vin, de la bière. J'imagine que ça se fait, et de plus en plus, parce que quand on a investi dans une énorme brasserie pour se développer et que les ventes ne suivent pas, bah c'est quand même intéressant comme business de pouvoir brasser de la bière pour d'autres, que ce soit de faire leurs recettes ou de vendre en vrac des quantités qu'on n'a pas vendues, avec des gens qui apposeront peut-être un marketing beaucoup plus fort, beaucoup plus efficient que la brasserie elle-même, ou qui ont un meilleur réseau et du coup qui vendront votre bière ou votre vin beaucoup mieux que vous, à des endroits différents. Donc voilà, il ne faut pas avoir un a priori idéologique en se disant ouais, c'est volé, ouais, les gens ils travaillent pas. Bah, moi, je suis moins du monde du marketing, etc. Mais force est de constater qu'en évoluant dans cet univers-là, bah, on se rend compte que oui, il y a des gens qui sont très très bons en marketing et qui ne sont pas forcément très bons en production ou en sélection. Et du coup, ils vont se retrouver à vendre des quantités de, par exemple, le cognac. Si tu achètes du VSOP à un petit producteur qui lui est nul en marketing, n'arrive pas à valoriser son produit, bah, c'est comme si c'était une activité complémentaire où toi tu lui achètes ce que lui n'arrive pas à vendre, tu le mets dans ta bouteille qui est plus jolie, qui a un meilleur marketing, toi tu as un meilleur réseau, tu arriveras mieux à le valoriser. Bah, c'est quand même un petit peu gonflé d'insulter le mec du marketing alors que techniquement il rapporte de l'argent au petit vigneron qui fait un très joli produit, un très joli cognac, mais que lui n'arrive pas à le vendre. Donc c'est une complémentarité, c'est comme ça qu'il faut le voir. Moi, personnellement, je ne ferai pas d'achat de vrac que j'embouteille juste moi-même pour faire des grosses quantités, je veux dire. Parce que j'aime bien apporter ma petite pâte et tout. Ou sinon, si je le fais, c'est comme sur Maquisard, c'est en transparence. Et c'est des jus qui sont premium et que la distillerie elle-même ne sortirait pas. Donc après, c'est un autre univers, mais voilà. Ces trois solutions-là existent, sachez-le. Moi, je pense que la plupart d'entre vous, la plupart des gens qui me posent des questions pour se monter un business dans l'alcool ne prendront pas la solution numéro un, qui est de fabriquer eux-mêmes, sinon juste ils ne me poseraient pas la question, en fait, puisqu'ils savent déjà comment ça marche. Donc, vous avez deux autres types, et il ne faut pas avoir de complexe à appeler une distillerie ou leur envoyer un mail en disant « Est-ce que vous faites du à façon ?» Parce que bah, c'est vraiment un cœur de leur business. Hein. Vous savez, il y a des distilleries qui ont leur propre marque. Oh, putain, Siri, il y a plein de lieux de production, on va dire, qui ont leur propre marque et même qui sont très connus. Et pourtant, 90% de leur business, c'est de fabriquer pour d'autres, en fait. Juste, vous ne le savez pas, en fait. Vous savez beaucoup d'eux, en fait. Et dans le vin, ça doit exister aussi. Si jamais vous voulez monter votre bouteille de vin, faut aller voir un producteur qui, par contre, lui, a parce qu'il y a beaucoup de domaines de vin qui sont sous allocation, c'est-à-dire qu'ils ont plus de demandes que d'offres. Mais si vous allez voir quelqu'un qui fait du joli vin et qui n'est pas sous allocation, il a peut-être du vrac à vous vendre. Et dans ce cas-là, vous pourrez faire votre propre bouteille de vin, j'imagine. Et pareil, du coup, dans la bière, je pense que dans la bière, ça devient de plus en plus courant quand même. Parce que pour passer à l'étape supérieure et avoir une brasserie qui nous sort de la toute petite micro-brasserie, bah, c'est quand même intéressant d'aller vers la production pour d'autres parce que ça fait un chiffre d'affaires qui ne dépend pas de notre débit de vente aux particuliers, en fait. Donc je suppose que dans la bière, ça existe de plus en plus. De quoi je voulais vous parler ensuite ? Les douanes et la sécurité sociale. Alors, dans l'alcool, du coup, nous sommes soumis aux mêmes taxes que toutes les autres entreprises françaises. Mais nous avons une taxe, enfin deux taxes, mais qui est réunie en une supplémentaire que je crois seul le tabac et le pétrole payent aussi, qui sont du coup d'une part les taxes douanières et de l'autre ce qu'on appelle les CSS, donc les cotisations de sécurité sociale, je crois que c'est ça l'abréviation. Donc oui, même si vous fabriquez de l'alcool en France et que vous le vendez en France, vous payez des douanes, c'est comme ça, et vous payez de la cotisation à sécurité sociale qui est justifiée par l'alcool va créer des maladies qui vont du coup coûter de l'argent à la sécurité sociale. Donc vous compensez cet argent que vous allez faire perdre à la sécurité sociale en payant une taxe en amont des maladies, donc en émettant une bouteille sur le marché. Alors, il faut savoir du coup qu'il existe un système, parce que ces taxes sont très élevées. Hein. Si vous faites un whisky à 40 degrés, 70 centilitres, parce qu'elles sont basées en fait sur le volume, donc sur la quantité d'alcool que vous avez dans une bouteille, donc en général c'est 70 centilitres, et sur le pourcentage d'alcool. Alors, il faut savoir qu'en dessous de 18 degrés, vous en payez beaucoup moins, vous payez plus à sécurité sociale, je sais plus, parce qu'en fait moi je fais que des alcools de plus de 18 degrés. Donc le vin par exemple et la bière payent très peu de taxes, mais les alcools forts en payent beaucoup. Si vous faites un whisky à 40 degrés 70 centilitres, sachez que c'est 7,03 € qui partent dans les douanes et la sécurité sociale. En tout, hein, c'est pas 7,03 € chacun, c'est 7,03 € en tout. Une bouteille qui fait du coup 45 degrés, ça sera encore plus. Quelque chose comme 8 euros. Donc, ça, dans le Ricard, il y a 8 euros. Quand vous regardez le prix à Carrefour d'un Ricard de 70 centilitres, et dites-vous qu'il y a 8 balles de taxes sécurité sociale et qu'il y a 20% de TVA. Voilà. Vous allez voir la marge qui reste. Vous allez un peu baliser. Donc, ces taxes-là, il existe un système. Parce que le problème, c'est que si vous fabriquez le whisky, je prends l'exemple d'un whisky ou d'un gin, on avait dit un gin. Un gin à 40 degrés, 70 centilitres, donc il y a 7,03 € de taxes, de douane et de sécurité sociale. Si vous envoyez votre gin du lieu de la distillerie qui vous le fabrique jusqu'à votre entrepôt pour ensuite l'envoyer à vos clients, il vous faut un agrément des douanes pour votre entrepôt pour éviter d'avancer cette taxe, puisque vous allez devoir payer la taxe à partir du moment où elle sort d'un lieu qui est agréé par les douanes. Je m'explique. La distillerie, comme elle fabrique, elle est obligatoirement agréée par les douanes. Si votre entrepôt, comme le mien l'est, est agréé par les douanes, c'est-à-dire que du transport de vos bouteilles de gin de la distillerie où vous fabriquez jusqu'à votre entrepôt où vous les stockez, vous n'avancerez pas cette taxe. Et c'est quand même assez important en termes de business, de fonds de roulement, de trésorerie, parce que si vous ramenez 1000 bouteilles de la distillerie jusqu'à votre entrepôt, ça fait quand même 7000 balles à avancer, juste de taxes. Dans la trésorerie, ça fait très mal. Alors, pour ça, il faut faire agréer son entrepôt. C'est extrêmement long. Vous pouvez compter au moins 6 mois, voire 1 an, si vous n'avez pas de chance, en fonction des douanes qui sont chez vous. Sachez que les douanes, la plupart du temps, ne comprennent rien à ça. Elles ne savent même pas. Il y en a certains, ils ne savent même pas que ça existe, alors que c'est leur boulot. Hein. Mais prenez ça en compte, je vous préviens d'avance. Certains douaniers ne savent pas que ça existe, ne comprendront pas de quoi vous leur parlez, alors que c'est eux qui doivent vous donner les agréments, les outils de comptabilité, etc. Parce que vous aurez deux comptabilités différentes aussi, une comptabilité dite classique et une comptabilité pour les douanes. Et après, tout un tas de papiers qui va avec. Si le camion se fait arrêter à un péage, bah, il y aura le papier sur la palette qui justifie de pourquoi les droits n'ont pas été payés sur ces bouteilles, etc., etc. Donc ça, c'est le système des entrepôts agréés. Alors, dans ce cas-là, il y a plusieurs problèmes qui viennent à vous. Dites, putain, je suis obligé d'attendre 6 mois, je suis obligé d'avoir un entrepôt, alors que de base, moi, je voulais juste faire du gin. Je vous ai dit, c'est compliqué, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, hein. C'est pour ça que les marques d'alcool qui durent dans le temps, croyez-moi qu'elles ont affronté des problèmes. Donc là, il y a plusieurs solutions. Moi, je peux vous parler de mon expérience. Au début, moi, j'avançais les droits. Donc pendant 1 an, je me suis fait. Alors non, pardon, c'est faux. En fait, au début, moi, j'avais un distributeur qui était à Maison du Whisky, que j'ai toujours d'ailleurs, chez qui je suis en non-exclusivité. L'entrepôt de mon distributeur, donc la Maison du Whisky, lui, est agréé par les douanes. Et donc, en fait, mes bouteilles partaient de la distillerie, allaient à la Maison du Whisky, et je ne payais pas les droits. Donc, je ne les avançais pas, et ça, c'était parfait. Et la maison du whisky me payait quand ils me vendaient des bouteilles. Ensuite, j'ai eu mon propre site avec mon propre entrepôt qui n'était pas agréé par les douanes. Et là, c'est devenu compliqué parce que j'ai dû avancer les droits pendant plusieurs mois, ce qui a vraiment fait très très mal à ma trésorerie, qui a franchement, à un moment, je l'avais pas dit, mais l'année dernière, ça a failli me coûter ma boîte. Et au moment où on a lancé les trois premiers maquisards, et ça, les ventes ont très bien marché grâce à vous. Si vous en avez acheté, merci beaucoup parce que. En ce soir d'octobre où on a lancé les trois maquisards, on était extrêmement stressé parce qu'on jouait l'avenir de la société de Michelot. Et vous l'avez sauvé parce qu'on n'avait plus de trésorerie pour avancer les droits, ce qui fait qu'en attendant l'argent de nos ventes, on ne pouvait plus créer de marchandises parce qu'on devait attendre l'argent, non pas pour créer les marchandises, mais pour créer les marchandises plus avancer les taxes. Et là, ça devenait trop compliqué. Donc on a eu cet argent grâce au maquisard et on a pu faire le roulement. Et maintenant notre entrepôt est agréé par les douanes, donc on peut commander beaucoup plus de marchandises sans avancer les droits. Et ça c'est parfait. Donc je reviens à l'exemple de si toi tu veux monter ta marque de jean, toujours fictive. Soit tu trouves un distributeur direct et tu pourras profiter de son entrepôt et en plus c'est lui qui vendra pour toi. Là tu as encore un dilemme. Soit tu vas chez un très gros distributeur qui a un catalogue énorme et qui vend partout. Mais du coup, tu seras noyé dans ce catalogue, tu seras au milieu de 40 autres marques de jeans. Alors pourquoi leur client final te prendrait toi et pas un autre? Et leur commerciaux va pousser la marque qui marche le mieux. Il va pas te pousser toi. Soit tu vas chez un petit distributeur, donc qui pourra potentiellement beaucoup plus te pousser. Par contre, tu as moins de possibilités de vendre partout, quoi. Soit tu te distribues toi-même, mais il te faut ton entrepôt agréé par les douanes ou une très solide distillerie. Ou trouver un entrepôt qui, lui, n'a pas de commerciaux, qui est juste un entrepôt agréé et qui envoie les bouteilles pour toi. Voilà. Donc, tu as trois solutions. À toi de voir hein, laquelle est la meilleure selon toi. Sachant que si tu fais des alcools mainstream type gin, ce sera assez dur de trouver un distributeur. Whisky, rhum, ce sera peut-être plus facile. Mais encore une fois, il y a beaucoup de concurrence chez le client final, caviste, restaurateur, mais tu auras aussi beaucoup de concurrence au sein même de ton distributeur. Donc ça sera déjà difficile de leur vendre à eux, vendre au client final, mais ce sera aussi difficile de vendre au mec qui va le vendre. Vraiment, je vous l'ai dit, hein, c'est un marché qui est très compliqué. C'est pas un Eldorado comme beaucoup pourraient le croire. L'avantage d'un distributeur, c'est que par exemple, tu te mets à la place d'un restaurant. Le distributeur il vient, bah, ce qui est bien, c'est qu'il peut lui acheter du whisky, du rhum, du vin, de la bière, enfin en fonction, il peut prendre tout un panel de ce que vend le distributeur, acheter tout en quantité une fois, il a qu'un coup de fil à passer, il a qu'une seule facture, il paye pas les frais de port puisqu'il a pris une quantité qui lui permet de pas payer les frais de port, donc lui ça l'arrange, c'est ça l'avantage des distributeurs. Et le distributeur c'est lui qui ira chercher l'argent pour toi, c'est lui qui trouve les clients pour toi, etc. etc. Tout faire soi-même, bah, tu gagnes plus de marge, ça c'est intéressant. Par contre, bah, c'est toi qui dois aller chercher les factures en retard, c'est toi qui dois trouver les nouveaux clients. Le client, il aura peut-être pas envie de commander parce qu'il faut qu'il commande trop de bouteilles d'un coup pour avoir les frais de port offerts, etc., etc. Je pense que tu commences à comprendre les problèmes, qui est de te mutualiser avec d'autres marques, mais dans ce cas-là, il y a de la concurrence et tu perds de la marge, ou être indépendant, et dans ce cas-là, bah, faut que tu sois présent sur le champ de bataille et que tu te batailles tous les jours. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait, je me suis auto-distribué, donc c'est moi qui vends moi-même mes produits, et maintenant, je vends même les alcools d'autres distilleries, ce qui me permet de créer des packages chez mes clients et de vendre en plus grande... enfin, de pouvoir mieux vendre, puisqu'il se dit, ah, ok, bah, vas-y, je vais prendre du gin, de la vodka avec, et tout, et ça lui fait un meilleur panier. Voilà, j'espère que j'ai été clair de ce côté-là avec les entrepôts agréés et les avantages d'avoir un distributeur ou pas. Et la dernière grosse barrière qui se situe devant toi, et j'en terminerai là, c'est la loi E20. Donc la loi E20 qui interdit la publicité de l'alcool, du tabac, mais nous on s'en fout du tabac, c'est l'alcool qui nous intéresse. Tu n'as pas le droit de faire de spot publicitaire à la télé, à la radio, je crois, et toutes tes publications, tes publicités seront fortement cadré. Tu n'auras pas le droit d'associer ta marque d'alcool avec un moment de convivialité, avec un moment jovial. Tu n'auras pas le droit d'avoir un ambassadeur de marque qui est une star. José Garcia le paye assez cher avec sa propre marque On va attendre de voir dès qu'il aura les résultats de son procès. Je vous en parlerai. En gros, tu n'as pas le droit de montrer que c'est cool, tu n'as pas le droit de montrer que c'est amusant, tu n'as pas le droit de montrer que c'est sympa, en gros, et il faut mettre l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à chaque fois. Enfin bref, il faut que tu puisses faire la promo de ton alcool sans en faire la promo. Donc tu as un produit qui est fortement taxé, fortement réglementé, très concurrentiel, peu de marge, très difficile de faire la publicité. C'est pour ça que je vous ai dit, ceux qui veulent monter leur marque d'alcool en pensant que c'est un truc cool et tout, c'est un truc cool, mais bienvenue à Hunger Games. Savourez votre lutte, parce que c'est là vous rentrez dans un marché qui est extrêmement violent. C'est pour ça que vous m'avez vu faire plein de remarques en story ou même des fois craquer, parce que ça pèse quotidiennement sur mon état psychologique, moral et tout, parce que c'est à devenir fou. Tu payes beaucoup de taxes, donc tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu fais de la logistique, ce qui crée un nombre d'emmerdes colossal, et tu n'as pas le droit de parler de ton business ou pas le droit d'en parler à fond, ce qui le rend très très compliqué. Voilà. Donc ceux qui ont toujours ce rêve, j'espère que je ne vous ai pas dégoûté et que je vous ai donné en transparence tous les arguments qui vous permettront de ne pas commettre d'erreur et d'avancer dans un chemin balisé. Ceux qui ne s'attendaient pas à tout ça et qui sont dégoûtés, eh bah désolé, mais au moins ça vous évitera de vous arracher les cheveux si vous n'étiez pas prêt à tout ça, et ça vous évitera de perdre de l'argent. Ceux qui comptaient pas monter de marque d'alcool, j'espère que je vous ai appris des choses et que vous avez un peu de compassion pour moi maintenant et que vous comprenez pourquoi je craque des fois. Et si vous voulez faire en sorte que mes larmes soient moins brûlantes pour moi, vous pouvez aller sur demichelot.com, vous procurer une de mes bouteilles ou les bouteilles des distilleries que je distribue pour m'aider dans cette quête, dans cette aventure qui est de faire redécouvrir aux Français les alcools traditionnels. Français, 100% made in France. Tous les alcools vendus sur demichelot.com sont fabriqués par des Français, en France, avec des matières premières françaises, savoir-faire unique au monde, par notre diversité de terroirs et la quantité de matières premières que nous utilisons pour faire ces alcools, et c'est surtout leur longévité à travers l'histoire. Ça fait 700 ans qu'on fabrique de l'Armagnac, donc on a un léger background. Et du coup, sur les autres alcools aussi. Sachez que le monde entier connaît nos appellations. Donc, c'est quand même intéressant. Si les Français pouvaient les redécouvrir, les comprendre et les boire, 98% du cognac est exporté. Donc, on a un rayonnement stratosphérique dans le monde. Mais nous, on boude nos alcools. Voilà. Donc, demichelot.com, c'est fait pour régler ce problème. Et je vous invite à venir m'aider si ma quête vous touche et fait sens chez vous. Voilà, merci de m'avoir écouté pour ce huitième épisode de podcast. Je ne sais pas ce que je vais lui donner comme titre. C'était pas forcément rigolo, mais je pense que vous avez appris des trucs. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Moi, je vais faire ma randonnée dans le Cantal. On se voit la semaine prochaine. Ciao!